Nous cheminons. Parfois, nous avons l'impression de prendre des détours. Parfois, il y a des moments qui nous sont un petit peu incompréhensibles, ténébreux. Et j'aimerais ce matin nous faire cheminer un petit peu avec quelqu'un qui est présent, mais que vous n'avez pas encore reconnu, à l'image des deux disciples d'Emmaüs. Je commence cette méditation par ce texte, mais ce ne sera pas le sujet tout à fait de ma prédication. Mais on va prier d'abord. Seigneur, nous voulons la révélation du Saint-Esprit dans nos cœurs, que ta parole nous soit éclairée, redonnée, vivante, bienfaisante, au nom de Jésus. Amen. Je lis deux versets dans Luc 24, les versets 25 à 27. C'est une sorte d'introduction. Luc 24, les versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, et je ne sais pas si vous allez vous sentir concerné, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Moi, je me reconnais un peu là-dedans. On n'est pas des rapides. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, puis qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On n'aura pas le temps ce matin d'examiner toutes les Écritures, mais au moins un chapitre. Et ce que je voudrais, c'est qu'on prenne conscience de ce qu'est une lecture chrétienne de la Bible. Ce n'est pas n'importe quoi. Une lecture chrétienne de la Bible n'est pas forcément une lecture érudite, pointilleuse. Mais c'est une lecture faite à la lumière d'un événement qui a tout changé. Et vous l'avez compris, l'événement qui a tout changé, c'est la croix, la mort de Jésus sur la croix. Et ceci apparaît déjà dans les évangiles. Lorsque Jésus ouvre les Écritures, et ça nous amène à cette question, comment Jésus lisait-il les Écritures? Comment est-ce qu'il les lisait? Et là, nous avons déjà un indice. Il explique aux deux hommes qui étaient tout déboussolés, vous vous rendez compte, ce qui venait d'arriver, celui qu'ils avaient salué comme Messie, leur espérance, leur gloire, tout l'avenir, était mort sur une croix. Patatrac! Quel effondrement! Il faut les récupérer à la petite cuillère. Alors Jésus va non pas leur faire une démonstration éblouissante de puissance, de gloire, mais il reprend les Écritures. C'est quand même étonnant, hein ? Ô homme sans intelligence, Seigneur, donne-nous cette intelligence à la lumière de ta croix pour comprendre les Écritures, afin qu'elles redeviennent pour nous quelque chose d'enthousiasmant. Il leur expliqua ce qui le concernait dans toutes les Écritures. Ce qui nous amène à dire que le cœur de la Bible, son âme, c'est Jésus-Christ. C'est vers lui que tout converge. La loi, les prophètes, les proverbes, les psaumes, tout converge vers lui. Et ce matin, On va essayer de faire un petit bout de chemin, si vous voulez bien. Alors, j'avais choisi tout un chapitre. Après tout, ça ne va pas nous faire de mal de lire tout un chapitre du deuxième livre des Rois. Et j'espère qu'à travers ce chapitre, nous allons prendre conscience de la façon dont Jésus le lisait. Et pas seulement ce que nous pourrions tirer de ce chapitre, selon notre sagesse à nous. Deuxième livre des Rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que le Seigneur avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Donc, rappelez-vous qu'ici, Israël vise le royaume du Nord, pas le royaume de Juda. Il n'est pas question de Jérusalem, mais de Samarie. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent. Un talent, ça fait 30 kilos, quelque chose comme ça. Alors, 10 talents, 300 kilos d'argent. 6 000 cycles d'or. Alors là, je ne sais pas que ça vaut, mais pas une paille, hein. Et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Il y a comme une erreur d'adresse, là, hein. Bref, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de la lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux, son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla. « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera la main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur, quand mon maître, il s'agit là du roi de Syrie, quand mon maître entre dans la maison de Rimmon, l'idole des Syriens, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Élisée lui dit, va en paix. J'arrête là parce que c'est encore un peu long. Il y a toute la suite qui nous parle de Géasi qui trouve que quand même son maître aurait pu accepter un petit quelque chose. Alors il court derrière Naaman et puis il lui dit, il lui raconte une histoire, un bobard, pour se faire remettre un peu de sous, hein, un peu d'argent, une bricole. Et puis, volontiers, Naaman, le lépreux guéri, il lui donne quelque chose. Et Géasi, le serviteur d'Élisée, revient chez Élisée. Et là, ça ne se passe pas très bien pour lui. Mais bon, je ne vais pas vous charger en plus de cette histoire-là. J'aimerais encore venir dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 16 à 30. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. À l'étranger, dites donc. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville. Et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ah, la vocation de prophète est faite pour les courageux. Il faut oser. Oser dire et écrire ce que nous avons lu. Quoi donc ? Oser dire que c'est le Seigneur qui avait donné la victoire aux ennemis d'Israël. Attends là. Le Seigneur Dieu d'Israël a donné la victoire à ses ennemis. Il fallait oser le faire quand même. Plus encore, oser dire qu'il guérit de sa lèpre le général syrien responsable de cette victoire. C'est à n'y rien comprendre. Alors, il est avec nous, il est contre nous, pouvaient se dire les Israélites. Il y a parfois des situations comme ça qui proposent à notre foi des défis. Nous sommes défiés. Et il faut relever ces défis-là avec courage. Il faut oser encore mettre en valeur la présence et le témoignage d'une personne insignifiante, une petite captive du pays d'Israël, qui était au service de Madame Naaman. Et pendant qu'elle faisait la vaisselle, enfin, c'est pas, ça c'est un targum, elle dit à sa maîtresse, elle émet un souhait, elle dit, oh, si mon maître savait, il irait en Israël voir l'homme de Dieu, il le guérirait de sa lèpre. Voilà, une toute petite servante qui émet juste un souhait. Mais voilà, oser faire de ce simple souhait l'origine de la guérison du général lépreux et de sa conversion au Dieu d'Israël. Comme quoi, il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Peut-être quelques-uns se disent ce matin, « Oh, moi, je suis tellement peu de choses, ma parole, ne doutez jamais de ce que vous pouvez dire au nom du Seigneur. Ça peut avoir des conséquences considérables. Parce que Dieu, quand sa parole est semée, Dieu veille pour qu'elle prenne racine et qu'elle pousse et porte du fruit. N'est-ce pas? Au fond, cette histoire contient l'affirmation de la grâce libre et souveraine de Dieu. Et cette affirmation entre en opposition frontale avec la logique marchande si présente aujourd'hui dans le monde. L'économie a tout envahi. Et nous avons du fil à retordre avec ça. Parce qu'au fond, nous portons un message de gratuité. Grâce a donné le mot gratuité en français. Ça rend les gens même méfiants. Quand on vous dit c'est gratuit, ouh là là, qu'est-ce que ça cache? Un peu comme le roi d'Israël, quand il reçoit la demande maladroitement formulée, c'est vrai, de guérir un lépreux, il dit ouh là là. Qu'est-ce que ça cache? Il interprète très négativement la lettre du roi de Syrie, bien sûr. Il n'est pas en forme, le roi d'Israël, hein, ou du point de vue de la foi. La peur est mauvaise conseillère. Alors, il se voit déjà mort. Il déchire ses vêtements. Il dit « Je suis mort !» Parce que déchirer ses vêtements, c'est un geste de deuil. Alors, ça y est, pour lui, les carottes sont cuites, il est fini. Il a la trouille. On me provoque, je suis fini, ça y est. Puis Élisée lui apprend cela et lui fait dire, mais pourquoi tu fais ça? Laisse-le venir vers moi et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Oui, il faut oser sortir du marchandage avec Dieu. Il faut savoir accueillir avec reconnaissance la gratuité de ses bénédictions, comme un enfant, dit Jésus. D'ailleurs, la gratuité est fortement soulignée ici par le refus d'une récompense de la part d'Élisée. Élisée refuse d'être récompensé par l'homme qui vient d'être guéri. L'homme insiste, Élisée persiste, dit non. Les choses de Dieu ne s'achètent pas, elles ne sont pas mesurables financièrement. C'est un cadeau. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il y a déjà tout ça dans l'Ancien Testament. C'est une lecture particulière que l'on peut faire. Il fallait oser. Comme Jésus ose, dans la synagogue de Nazareth, son village, là où on l'a vu en culotte courte, il ose, dans cette synagogue de Nazareth, rappeler cet épisode urticant, énervant, du choix de Dieu de guérir un étranger, du choix de Dieu d'envoyer le prophète Élie chez une femme veuve à Sarepta. Ça les énerve. Or, c'est ainsi que Jésus fait la lecture des Écritures. Qu'est-ce qu'il en retire? Moi, je me suis souvent demandé, qu'est-ce qu'un pasteur pentecôtiste peut retirer d'une lecture comme ça? Alors, il va y aller, hein? La puissance de Dieu qui guérit toutes les maladies, alléluia, etc., etc. Or, Jésus ne fait pas exactement toute cette lecture-là. Il souligne le fait du choix gratuit de Dieu de s'intéresser aux étrangers. Tiens, tiens. De s'intéresser à toute souffrance sans tenir compte de la nationalité, de la race, du genre, comme on dit aujourd'hui. Oui, Jésus ose rappeler cet épisode urticant. D'ailleurs, pour faire bonne mesure, il rappelle aussi donc l'épisode de Élie à Sarepta. Les prophètes Élie et Élisée étaient très populaires en Israël du temps de Jésus, essentiellement à cause d'une lecture, comment est-ce que je pourrais dire ça, un peu émerveillée par les miracles. Sous l'effet des miracles d'Élie et d'Élisée, ces prophètes-là étaient devenus très populaires. C'étaient des poids lourds charismatiques. On aime bien les poids lourds charismatiques. Hein? Mais il nous faut apprendre aussi à aimer les Christs crucifiés. Le Christ faible. Le Christ fou. Ah, ça change. Oui, Paul le dira dans une lettre aux Corinthiens, la faiblesse de Dieu. Il ose parler, lui aussi il ose, Paul. Il ose parler de la folie de Dieu, de la faiblesse de Dieu. Folie plus sage que les hommes, faiblesse plus forte que les hommes. Il nous faut bien prendre conscience qu'un des caractères essentiel de l'évangile, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Vous savez ce que c'est qu'un paradoxe, hein? Quelque chose qui n'obéit pas à notre logique, qui va contre la logique. C'est ça l'évangile. À l'époque de Jésus, on connaissait l'attente de la venue d'Élie précédant celle du Messie. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui encore, nos frères juifs, le jour de Pâques, le repas, laisse une chaise vide pour le prophète Élie. Parce qu'ils disent qu'il faut qu'Élie vienne premièrement pour annoncer une nouvelle venue, la venue du Messie. Donc on attendait ce prophète. C'était quelqu'un d'important. Et les actes d'Élie inspirèrent les disciples de Jésus. Rappelez-vous cet épisode. Il traverse le pays des Samaritains et il demande l'hospitalité, de voir sacro-saint en Orient. On leur refuse l'hospitalité. Réaction des disciples, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume ?» C'est du Élie dans le texte, carrément. Ah oui, ça, il méritait ça, hein. Pouf. Jésus les reprend sévèrement. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Jésus, lui, est animé d'un autre esprit, puisqu'il ira, lui, vers la mort pour nous sauver. Eh oui. Jésus s'oppose à cet esprit que j'appellerais un esprit populiste. Un esprit populiste, chauvin. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous voici soudain en pleine actualité. Les nationalismes actuels se réclament tous de la religion ou d'une religion et revendiquent Dieu à cet effet. C'est le populisme. Pour avoir simplement rappelé les valeurs évangéliques au nom de la cause des migrants, le pape François a même été classé à gauche par un porte-parole du RN. Vous voyez ce que c'est le RN, l'ancien Front National. J'ai entendu ça à la radio cette semaine. Le pape est à gauche. Eh ben ouais, jeudi 22 août sur France Info. Mais c'est vrai parce que l'évangile est à gauche. Vous ne serez peut-être pas d'accord. Mais l'évangile, je ne dirais pas être un humanisme, mais l'évangile produit un humanisme. Il a un tendre soin des petits, des exclus, des étrangers. Et remarquez, c'était déjà dans la loi, c'était dans les Écritures. Et Jésus reprend cela. Il faut oser le dire. Et c'est ce que Jésus fait dans la synagogue de son village. Cette lecture que Jésus fait des Écritures les a mis en colère. Ils ont voulu immédiatement l'éliminer. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté, chantait Guy Béard. Mais ce n'était pas l'heure encore, et Jésus passe au milieu d'eux et s'en va. Et puis il y a d'autres choses intéressantes dans cette histoire du deuxième livre des rois, ce chapitre 5 que nous venons de lire. Parce qu'il fait passer de la religion, justement, avec son cortège de superstitions, à la foi. Passer de la religion à la foi. De la confiance en la grâce libre et souveraine de Dieu. Voici comment. Vous suivez toujours, ça va ? Naaman s'imagine, c'est notre lépreux, hein, il s'imagine avoir été méprisé, traité au rabais par le prophète, qui ne se déplace même pas et qui lui refuse les gestes magiques attendus d'habitude pour les clients de son espèce. Pour les clients de son rang. Bref, il attendait qu'il agite la main sur les endroits malades, qu'il use de formules appropriées, magiques. Bref, il attendait un exorcisme en bonne et due forme. Et comme Élisée ne fait rien de tout cela, il s'estime avoir été grugé. Et il s'en retourne furieux. Heureusement pour lui, ses serviteurs le ramènent au bon sens. On l'a lu tout à l'heure, vous avez suivi, je pense, cette histoire. Plus loin, Naaman s'imagine que le Dieu d'Israël ne peut être invoqué que sur une terre d'Israël. Parce qu'à cette époque-là, chaque peuple avait son Dieu. Et on ne pouvait prier son Dieu que dans sa terre. Et Israël en était aussi à ce point-là. Alors il va importer à dos de mulet un peu de terre d'Israël pour créer artificiellement une petite enclave israélite pour pouvoir prier le Dieu de cette terre-là. Vous comprenez ? C'était sa vision des choses. Cette terre-là, elle est sainte. À ce propos, je vais oser aussi dire quelque chose. Quand on va en Israël, on ne va plus en terre sainte. Parce que toute la terre est sainte. toute la terre, toutes les nations ont été rachetées par le sang de Jésus. Et dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. La Roumanie est sainte. La Suisse aussi. Et la France encore. Partout. La présence de Dieu n'est plus dépendante de nos démarches religieuses, de nos sanctuaires bâtis à prix d'or. La présence de Dieu n'est plus cadrable, assignable à résidence. C'est fini ce temps-là. Et Jésus l'avait compris. Il y a... Ça va encore ? Je me méfie de moi, je me connais. Bon. Deux évangiles nous racontent la visite que Jésus fait au temple de Jérusalem. Vous voyez un peu le Jésus qui examine toutes choses. Il y en a un qui dit qu'il fait un fouet avec des cordes pour chasser les vendeurs, etc. Et deux des quatre évangiles associent cette visite de Jésus à la malédiction d'un figuier. Il s'approche, il a faim, il trouve que des feuilles. Et je crois que c'est Luc qui précise, c'était pas la saison des figues. Alors, ou bien Jésus est un mauvais jardinier, ou bien ça veut dire quelque chose. Et il faut rattacher ce figuier qui n'a pas de fruits au temple. L'ancien régime de la loi a marqué ses limites. Elle a montré son impuissance. La loi ne peut pas amener le salut. La loi ne peut pas changer le cœur des hommes. La loi, d'une certaine manière, est stérile. Ce n'est pas la saison des figues avant que Jésus vienne. Mais la saison est venue avec la mort et la résurrection de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit à ce figuier pour le maudire ? Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Que jamais, plus jamais, il utilise ce mot, plus jamais, personne ne mange de ton fruit. Et ce temple disparaîtra en l'an 70. Pourquoi ? Parce qu'un régime nouveau est là, une saison nouvelle est là avec Jésus-Christ, qui, fort des Écritures dans son cœur, a le courage d'aller mourir sur une croix en face de la ville de Jérusalem. Il a ce courage, il ose, parce qu'il a trouvé dans les Écritures la force d'obéir, la force d'aller jusqu'au bout, la force de nous rejoindre dans notre abîme où nous nous étions abîmés. Et nous sommes très abîmés d'ailleurs, le genre humain. Est très abîmé. Même s'il y a encore des pépites ici ou là. Mais, en fait, celui qui nous sauve vraiment, c'est Jésus. Le Jésus qui croit les Écritures, qui les accueille, qui les interprète et qui les lit à sa manière. Et c'est là où j'aimerais que nous puissions petit à petit entrer, dans cette manière de lire les prophètes. Qu'à Jésus. Oui, Naaman s'imagine que Dieu, le Dieu d'Israël, ne peut être prié que sur une terre d'Israël. Alors, deux mulets, une charge de deux mulets, il va faire sa petite enclave de terre sainte. Oh. Et puis, il y a quand même une crainte dans son cœur. Il vient de confesser que le Dieu d'Israël qui vient de le guérir, c'est vraiment le plus grand, le seul. Il se convertit au Dieu d'Israël. Mais voilà, conscience, cas de conscience, comme dirait Pierre Jox. Il s'imagine qu'il va se mettre en situation difficile lorsque ses devoirs professionnels lui imposent d'aller dans le temple de l'idole avec le roi et de se prosterner devant l'idole avec le roi de Syrie. Il pense que là, il ne va pas s'en sortir. Et il s'en explique avec le prophète Élisée. Et au fond, c'est le contraire qui lui est montré. Lui qui avait le souci de créer une enclave de Terre Sainte pour prier le Dieu d'Israël, va découvrir autre chose. C'est le contraire qui lui est montré. Il implore le pardon à l'avance lorsque ses obligations professionnelles lui imposeront de se prosterner avec le roi de Syrie dans son temple de Rimmon. Or, Élisée, lâche, va en paix. Ah, dis donc, là encore, il faut oser. Va en paix. Comment ça ? Quand on connaît l'interdiction formelle de l'idolâtrie en Israël, en réalité, ce « va en paix » témoigne du néant des idoles devant la grandeur de celui qui vient de se révéler à Naaman. Les idoles, c'est rien. C'est du vide. C'est du néant. Et elles ne peuvent pas empêcher Dieu d'accompagner ses enfants dans les situations les plus scabreuses, les plus délicates professionnellement. Vous savez, il y a des chrétiens qui occupent des professions qui posent des cas de conscience, parfois. Oui, cette parole témoigne du néant des idoles devant la grandeur de Dieu. N'entend-on pas déjà ici l'écho du dialogue entre Jésus et la femme samaritaine ? Jésus ose lui dire « Oh, c'est fini ça, Jérusalem, le mont Garizim, c'est plus là ou là que vous adorerez le Père, mais c'est en esprit et en vérité. » Ah ! En esprit et en vérité. C'est où ça ? Hein ? Dites-moi. C'est partout. Et puis on peut aussi se souvenir de l'écho de ce mot de Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 22. J'aime beaucoup ce verset. Il dit, Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, mais vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Comment est-ce que vous entendez cette parole-là ? Tout est à vous. Ben, moi, je l'entends ainsi. Je n'ai plus rien à craindre, je suis partout chez moi, ou plutôt chez lui. Je suis toujours dans sa présence. La maladie, la santé, la vie, la mort, les voyages, je ne peux pas lui échapper. Parce que par sa croix, Jésus-Christ a tout gagné, il a tout conquis, et il partage tout avec nous. On a... Oui, bon, je me tais. L'Évangile aussi opère ce passage de la religion à la foi. Et je terminerai par quelques exemples rapidement passés en revue dans l'Évangile selon Jean. Oui, l'Évangile fait passer de la religion à la foi. Au chapitre 4, nous voyons un officier royal qui a entrepris un long chemin pour venir prier Jésus de descendre, guérir son fils mourant en lui imposant les mains. N'y a-t-il pas quelques points de ressemblance avec cette histoire d'Élisée et de Naaman ? Hein, ce papa inquiet, il se disait, il faut que Jésus vienne, il faut que lui impose les mains, il faut qu'il soit là. Et ça faisait quand même presque 2 jours de marche à pied. Jésus reçoit sa feuille de route, au fond. Mais cet homme est renvoyé à distance par Jésus. « Va, ton fils vit. » Et le texte dit, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et quand il fait le voyage de retour, on vient lui annoncer la guérison de son fils avant qu'il arrive même à la maison. Il vérifie l'heure, il dit oui, c'est effectivement... Au moment où Jésus dit « Va, ton fils vit », l'enfant a été arraché à la mort. C'est ça qui est important. Vous comprenez qu'il faut sortir de cette religiosité qui pense qu'il faut que ça passe absolument par un sacrement. pour que ça marche. Au chapitre 5, l'infirme malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda n'a plus à subir son sort comme une fatalité, à attendre le mouvement aléatoire de l'eau, c'est ce qu'on croyait, en présence de Jésus, c'est ici et maintenant, lève-toi, prends ton grabat et marche. Cette histoire fait passer des croyances à la foi. L'aveugle né au chapitre 9 n'est pas puni pour ses péchés, ni pour les péchés de ses parents. Il est là, désormais, pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà comment Jésus voit les choses. Comment Jésus lit les Écritures, comment il voit les choses. Et c'est ça que nous devons, c'est cela dont nous devons nous imprégner. Vous comprenez? Ce chapitre du deuxième livre des Rois aurait encore beaucoup de choses à nous dire, comme par exemple le rôle des petits dans leur témoignage. Nous pensons ne pas être capables de faire avancer l'œuvre de Dieu. Trop ceci, pas assez cela. Mais détrompons-nous. Dieu se sert de mille façons différentes pour accomplir ses desseins. Sa stratégie déroutante nous échappe. Et ce n'est pas nouveau, car les prophètes l'avaient dit. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Le faux raisonnement du roi d'Israël, qui voit la demande, certes mal formulée, de conduire Naaman vers Élisée comme une provocation de son ennemi. La peur est mauvaise conseillère, je l'ai dit. Bref, voici comment la lecture de la Bible à la lumière de Jésus peut encore nous encourager, nous libérer, nous instruire et nous rendre capables de toute bonne œuvre, comme un certain Paul l'a écrit à son jeune disciple Timothée, 2 Timothée 3, ce sera le verset de conclusion. 2 Timothée 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Oui, Seigneur.